les chemins de la connaissance. Cette semaine, les 5 psychanalyses de Freud. Aujourd'hui, le président Schreber, un cas de paranoïa. Avec Paul-Laurent Hassoun, psychanalyste, professeur à l'Université Paris 7. Paul-Laurent Hassoun, bonjour.
Bonjour.
Alors, Daniel Paul Schreber, juriste renommé, est président de la Cour d'appel de Saxe, et dans les 5 psychanalyses de Freud, le seul cas pour lequel donc le fondateur de la psychanalyse n'a jamais rencontré le patient. C'est donc sur le texte publié en 1903 par le président Schreber, Les mémoires d'un névropathe, que s'engage l'analyse, un texte d'ailleurs qui développe le délire d'un homme persécuté par Dieu dans une langue étonnante et d'allure messianique. C'est aussi l'occasion pour Freud de démontrer face à Bleuler et Jung la validité de sa théorie de la psychose, et c'est donc un texte qui a aussi cette valeur épistémologique.
Tout à fait. Les 5 psychanalystes, ce sont au fond les paradigmes des objets cliniques freudiens, entre 1905 et 1918 environ. C'est là où Freud pose la base de sa clinique. Il est remarquable qu'en ce qui concerne la paranoïa, il est obligé, si j'ose dire, de se contenter d'un texte.
Il s'en explique d'ailleurs dès le début, voilà. En disant que les médecins ou les psychanalystes de cabinet comme lui ont rarement accès à ce type d'affection.
Oui, parce qu'au fond, les
troubles mentaux,
les psychotiques, on les rencontre la plupart du temps en institution.
Voilà.
Là, il y a un texte. Mais c'est plus qu'une une raison conjoncturelle. Je dirais que la psychose est en rapport direct avec le texte et avec la lettre. Mmh. Le titre d'ailleurs, c'est mémoire, littéralement en allemand, c'est un mot qui veut dire chose digne d'être pensée et d'être mémorisée. Voilà, c'est-à-dire que Schreber se présente comme quelqu'un qui, dans un contexte qu'on va rappeler tout de suite, mais d'abord se défend, essaye de montrer, donc, il a commencé ce texte vers 1900, alors que donc il sort de cette terrible maladie des nerfs, comme il dit, et qu'il a ravagé, hein, on peut dire, enfin, il y a eu deux maladies, hein. Il y a eu une première dépression très forte qui est apparue.
À la suite, donc, de son échec une série des élections où il s'était présenté comme candidat conservateur.
Voilà, comme quoi l'échec politique peut être, dans certains cas, une cause de l'effondrement, probablement parce que c'était pas un véritable homme politique. D'ailleurs, c'est-à-dire que Schreber, c'était un magistrat de haut niveau qui, à un certain moment, c'était un homme conservateur, hein, du point de vue politique, qui se présente aux élections du Reichstag, de l'Assemblée donc allemande, en 1884-85. Il est surchargé de travail, et il se trouve qu'après cet échec, il a été nettement battu, il rentre dans une phase dépressive, mais qui en même temps qui pose les prodromes, je dirais, de sa future paranoïa, où il est d'ailleurs soigné par Flexich.
Hein, oui.
Et voilà.
Flexich, le psychiatre donc qui revient souvent sous sa plume dans ses mémoires d'un névropathe.
Hein. Oui, c'est sur lui que, comme dira Freud, Schreber va transférer son délire.
Voilà.
Et voilà. Mais il se sort, ma foi, plutôt bien de cette maladie, de cette alerte sévère. Et à ce moment-là, il a 42 ans. Hein. Et voici que, alors qu'il a 51 ans, quelques années plus tard, donc il a un second effondrement, celui-ci décisif, à la suite d'une nomination. Une nomination prestigieuse, puisqu'il est nommé président de la Cour de cassation de Saxe. Hein. Et là, il est nommé doyen. C'est quand même intéressant parce qu'il était tout jeune. Et il remarque d'ailleurs qu'il était le plus jeune de ses collègues. Sans doute que c'est déjà une indication d'un effondrement du côté de la fonction paternelle.
Oui.
En tout cas, là, visiblement, il ne supporte pas cette nomination. Alors on dira tout simplement qu'il a été surmené. En fait, véritablement, c'est, je dirais presque, c'est le prétexte au moment de cette nomination. Et là, quand on prendra au sérieux ce terme de nom et de nom du père, quand on est nommé quelque part, on est sommé de s'identifier au nom du père. Bon, mais sans aller trop vite, en tout cas, c'est voilà les faits, hein, c'est cet effondrement qui
on
fait...
On va voir que le père, effectivement, est une forte personnalité.
Oui, Moritz Schreber était un éducateur, un orthopédiste, un médecin. La famille Schreber, c'est une famille où il y a des juristes et des médecins.
Oui.
Il n'y a pas de théologien, mais il aurait pu en avoir, puisqu'on verra qu'il y a une sorte de théologie dans le délire de Schreber. Donc, c'est un héritier, hein, c'est un héritier... Schreber. Mais voilà quelqu'un qui, à un certain moment, se met dans cette position d'antinomie par rapport à sa filiation, qu'il a du mal à porter. On est en 1893, pour en finir avec les dates, et là, c'est une maladie qui se développe de façon spectaculaire, et c'est le compte-rendu de Schreber, dans son texte de 1903, c'est de raconter cette histoire pour montrer que maintenant, il en est sorti. Il en est sorti, on le verra d'ailleurs, au moyen d'un délire, et il demande à être libéré. Alors,
il sera libéré parce qu'il est interné.
Il est encore interné. Oui. Et d'ailleurs, il fait une argumentation juridique. C'est un juriste de haut vol, donc il fait une argumentation juridique. Il présente aussi son expérience de délire de façon assez expérimentale. Oui. C'est pas un homme qui est délirant, si je peux dire au sens banal du terme. C'est quelqu'un qui croit à la science. Oui. C'est un homme cultivé.
C'est très curieux d'ailleurs le décalage dans les mémoires d'un névropathe entre l'introduction et l'adresse au professeur Flexic.
Oui.
Et le reste évidemment du texte qui est complètement délirant. Alors que effectivement il se présente comme quelqu'un de soucieux de faire avancer
l'objectivité,
la science.
Voilà. Il croit au droit, il croit à la science, mais voilà, il y a le délire. Donc il présente, et c'est pour ça que c'est une aubaine, je dirais, pour la psychiatrie, surtout pour la psychanalyse, qui fait qu'on a présenté Schreber un peu comme le psychotique paradigmatique peut-être de tous les temps. Parce qu'il y a quelque chose de troublant chez Schreber, c'est à quel point les analystes peuvent le remercier, si j'ose dire. Il a fait travailler des analystes de façon extraordinaire, et il faudra sans doute se demander pourquoi. Mais il offre en quelque sorte tous les détails de son délire. Et vous voyez, c'est très important, puisque en clinique, il faut rentrer dans les détails, dit Freud. Or, là où le névrosé, pour des raisons assez profondes, parle, mais en même temps se cache, le psychotique est capable de tout montrer à ciel ouvert. Et naturellement, il présente ça comme quelque chose qui, à la fois, n'est pas normal et qu'il a vécu. Il est rentré en rapport avec Dieu, il a eu toutes ses visions, à la science de juger. Schreber n'est pas un fanatique, je dirais presque qu'il a un côté presque rationaliste, mais voilà, il reste ce texte. D'où vraiment la réponse à votre question. Au fond, c'est pas du tout un hasard si Freud s'empare de ce texte comme d'un document clinique. Le hasard a voulu, pour en finir avec les dates, le hasard a voulu que Schreber meure l'année même où Freud publie, son texte en 1911, où d'ailleurs il avait fait une rechute entre-temps. Mais voilà, donc on a ce texte, et maintenant, grâce à Freud, mais pas seulement grâce à lui, Schreber est resté un grand auteur, d'une certaine manière.
Alors on va en voir un exemple, si vous voulez bien, donc avec cet extrait des mémoires d'un névropathe du président Schreber.
Une nuit fut décisive, en particulier pour mon effondrement spirituel. Durant cette seule nuit, j'eus un nombre, en vérité, tout à fait inhabituel de pollutions, sans doute une demi-douzaine. C'est de ce moment que datent les premières manifestations de collusion avec les forces surnaturelles, notamment d'un raccordement de nerfs que le professeur Flessich avait branché sur moi, de sorte qu'il me parlait par le truchement de mes nerfs sans être personnellement présent. À partir de cette date aussi, j'acquis l'impression que les intentions du professeur Flessich envers moi n'étaient pas pures. Cette impression me parut se confirmer de ce que le professeur Flessich, quand je lui demandai au cours d'une visite personnelle de me dire s'il croyait en conscience à la possibilité d'une guérison, donna bien quelques apaisements, mais en outre, c'est du moins ce qu'il me sembla. Il n'osa plus me regarder dans les yeux. Le moment est venu d'entrer dans le détail à propos de la nature des voix intérieures qui depuis lors me parlent sans arrêt, dont il a déjà souvent été question, et en même temps à propos de cette tendance, à mon avis, immanente à l'ordre de l'univers, qui emporte la nécessité d'en venir, dans certaines circonstances, à l'éviration, transformation en femme de l'être humain, visionnaire, qui est entré en un commerce désormais impossible à suspendre avec les nerfs divins rayons.
Voilà un exemple de la langue un peu tout à fait délirante donc du président Schreber, Paul-Laurent Hassoun.
Et qui, c'est un extrait assez bien choisi parce qu'il pointe vraiment le moment de l'effondrement,
voilà,
qu'il appelle spirituel. Alors de quoi s'agit-il ? Quand Schreber arrive dans un état lamentable, on peut dire, donc dans l'institution psychiatrique, il présente d'abord un délire hypochondriaque. C'est-à-dire qu'il a l'impression que l'ensemble de ses organes sont détruits, qu'il est putréfié, et c'est très important parce que... Il a mangé son larynx, c'est ce qu'on appelle, en termes techniques, une sénestopathie, c'est-à-dire qu'au fond, tous ses organes sont en bouillie, et ce n'est que dans un second temps, après une période d'une souffrance sans doute indescriptible, d'ailleurs qui fait penser à certains états de mélancolie, plus encore que de paranoïa. Ensuite, pour expliquer ce qui se passe, je vais très vite là, mais pour expliquer ce qui se passe après de longs mois de souffrance, il va en arriver progressivement à faire des hypothèses délirantes. Il est très important de noter que, au fond, Pour le bon sens populaire, un fou, c'est normal, il délire. Or, nous pensons que lorsque le sujet délire, il tente de revenir vers nous. Hein. Autrement dit, l'effondrement est primitif. Le sujet perd le monde. Il rentre dans une situation impossible, subjective impossible, pour des raisons qu'on va évoquer. Et ensuite, une fois qu'il a perdu le monde, hein, il doit bien tenter d'y revenir. Je crois que c'est très important de voir ça, parce que, au fond, quand nous voyons un sujet déliré, ce qui est toujours impressionnant, il tente, comme dit Freud, de se refaire une place dans le monde. Or, c'est ce qui est arrivé à Schreber. Mmh. Il comprend pas pourquoi il a plus de corps. Hein. Alors, Freud, remarquablement, note que Schreber se trouve confronté à une impasse du côté du sexuel. C'est pour ça que moi-même j'ai rencontré ce cas dans mon travail sur le masculin et le féminin. C'est-à-dire qu'au fond, allons très vite, qu'est-ce qui se passe pour ce sujet-là, n'est-ce pas ? Il ressent en quelque sorte un trou fondamental de l'identité sexuelle. Hein. Parfois je le présente comme un transsexuel métaphysique.
C'est ce qu'il évoque dans ce mot, ce néologisme étrange, éviration, donc transformation oui. En femme.
Voilà. Alors, Freud remarque que longtemps avant son délire, en se réveillant un matin dans un demi-sommeil, il a entendu une voix, un peu de ce genre de voix pas encore tout à fait déliante, qu'on entend en demi-sommeil, hein, c'est-à-dire qu'il serait beau d'être une femme et de subir le coït. Hein. Voilà. C'est une voix qu'il entend et qui le fait sursauter. Comment est-ce que moi, un homme, je serais à cette place de femme, d'ailleurs avec une conception extrêmement passive de la féminité, hein, dans son fantasme. Bon, disons que cette phrase, cette voix-là, il a oublié, mais Freud remarque que c'est le noyau du délire. Hein. C'est comme si le sujet, brusquement, avait l'impression que la masculinité avait déserté son corps. Il y a de quoi se demander dans quel état est ce corps. Hein. Donc, dans un second temps, il va essayer de comprendre ce qui lui arrive. Il va donc rentrer en contact dans une sorte de théologie scientifique, si je peux dire, puisqu'il a été soigné par Flexisch, médecin des nerfs, lui-même est malade des nerfs.
Oui. Donc, la langue des nerfs, c'est d'ailleurs dans son esprit la langue de communication avec Dieu.
Voilà, voyez que c'est une théologie scientifique, c'est-à-dire qu'au fond, il représente Dieu comme une masse infinie de nerfs, ce qui fait que chaque fois qu'il reçoit une secousse d'angoisse indescriptible, hein, puisqu'au départ Schreber était tellement angoissé, pas la façon de névroser. Il était tellement ravagé par l'angoisse qu'il ne pouvait même pas se tenir ni debout ni assis. Il était une angoisse vivante. Hein. Alors, le moment où il va sortir de ce premier temps de l'angoisse, à partir du moment où il va se demander « Que me veut l'autre ? Que me veut l'autre divin pour qu'il me fasse tout ça ?» Et donc, il va mobiliser toute sa conception scientifique et peut-être d'ailleurs aussi juridique pour expliquer comment cet autre rentre comme il veut chez lui, comme ça. Ce qui veut dire que quand il ressent une angoisse, ça veut dire que Dieu accède directement et déclenche en quelque sorte son paquet de nerfs. Hein. Alors, dès lors, vous voyez, parce qu'au fond le délirant c'est ça, il dit tout ce qu'il sait. Ce qu'il ne peut pas comprendre, c'est qu'il est dans un rapport d'impossible pour assumer son identité sexuelle, psychosexuelle. Dès lors, il va imaginer que ce que Dieu lui veut, avec toute cette histoire très pénible, c'est le transformer en femme. Alors, il y a deux temps. Hein. Il y a effectivement, comme dans l'extrait, l'éviration, intmano, c'est-à-dire le fait de perdre sa masculinité,
sa virilité,
et dans un deuxième temps, quelque chose qui est plus positif dans le délire, qui est l'affaire Weiblichung, c'est-à-dire la transformation en femme. Alors Schreber a cette idée, qui est une réponse à son impossible sexuel, au fond, que Dieu veut. Pourquoi ? Il ne sait pas, mais vous savez, dans les prophéties, on ne sait jamais pourquoi est-ce que Dieu choisit un prophète. Bon, ben voilà, sauf que voilà, dans la Bible, il y a une dimension symbolique, tandis que chez Schreber, il n'y a pas de dimension symbolique, il y a au contraire un effondrement du symbolique. Donc, il va s'imaginer, pour arranger au fond ses affaires, hein, que Dieu veut qu'il se transforme en femme. Et donc, il va développer toutes ces dimensions qui expliquent que Freud va référer, évidemment, toute cette dimension à une homosexualité. Une homosexualité violente et refoulée.
Hein. Voilà. Voilà. Alors, bon, ça c'est l'explication de Freud. On évoquait le fait que c'est le premier examen, la première observation de la part de Freud d'un cas de psychose. Il est vrai que jusqu'à présent, le domaine de la psychanalyse était plutôt celui de la névrose. Alors, c'est peut-être le moment de définir aussi les différences telles que Freud les envisage à ce moment-là.
Oui, alors, pour aller assez vite, le névrosé, c'est quelqu'un qui garde encore un certain rapport à la réalité, mais qui organise des symptômes qui le mettent dans toute une activité fantasmatique, symptomatique particulière. Là où le psychotique nous donne l'impression d'avoir perdu la réalité. Freud dit que c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'au fond, voilà,
Le psychotique, bon, on a, oui. Ici il s'agit, Paul Ransoun, d'un cas de paranoïa.
Oui.
Il y a la schizophrénie aussi.
La schizophrénie, il y a la psychose maniaco-dépressive. Il y a la mélancolie.
Oui. Hein.
Donc, ce qui se passe.
Ce sont des affections graves, évidemment.
Voilà, des affections graves, pourquoi? Parce que la réalité perdue, dans un premier temps, nous dit Freud. Parce qu'il y a une sorte d'inondation pulsionnelle telle que le sujet perd la réalité. Mais dans un second temps, la réalité demande à être d'une certaine manière reconnue. Si vous mettez la réalité à la porte, elle commence à frapper à la fenêtre. Bon. Et donc le délire est un moyen de tenter de reconstruire une réalité qui a été perdue. Tandis que chez le névrosé, c'est tout à fait différent. Le névrosé a une pulsion forte, mais au nom de la réalité, au nom du père, au nom de la société, pour aller très vite, il réussit à refouler, mais la pulsion demande des comptes. Et c'est pour ça qu'il fait des symptômes et des fantasmes. Voilà, je trouve que c'est assez illuminant, d'une certaine manière, assez clair, quoi que ce soit dans la réalité plus complexe. Mais c'est ça le principe. C'est ce qui, ce qui nous explique que le psychotique, il a ce problème de reconstruction de la réalité. Un psychotique, c'est quelqu'un qui a perdu la réalité, mais qui est très occupé, puisqu'il doit passer son temps à reconstituer une réalité dans laquelle il n'est plus. Voilà. Alors, simplement, Schreber, d'après Freud, est dans une impasse sexuelle qui explique cette perte de la réalité, et quand le sujet est confronté à une bisexualité impossible à assumer. Et par exemple, détail tragicomique, mais Schreber, une fois qu'il a compris ça, il commence à se mettre des bijoux, c'est-à-dire qu'il commence à faire son métier de femme. C'est pour ça que j'appelais un transsexuel métaphysique, il ne demande pas lui à être opéré, il fait lui-même son opération dans le délire, si je peux dire, mais du coup, ce délire le soulage. Ce qui fait qu'il revient à une certaine normalité. Alors quand on lit ses mémoires, on se dit il est toujours dans le délire, mais en même temps, grâce à ce délire, il peut habiter notre monde, comme dit Freud.
Alors sur l'importance épistémologique du texte, si vous voulez bien, Paul-Laurent Assoun, on va donc évoquer les lectures critiques qui ont été faites de ce texte dans l'histoire ultérieure de la psychanalyse. Mais auparavant, je voulais vous faire écouter donc un extrait du séminaire de Gilles Deleuze, le séminaire du printemps 1980. C'est un moment où il évoque une activité dans le groupe donc qui s'est formé autour de lui, une activité qui consiste donc à rapporter les énoncés du délire et ce qu'en retient le psychiatre ou le psychanalyste, donc en quelque sorte superposer les deux textes et pour justement mettre en évidence ce qu'il appelle l'espèce de forcing de l'opération psychiatrique ou psychanalytique. Gilles Deleuze en 1980.
Je prends un exemple, vous connaissez ce que c'est que Schreber, le président Schreber, le fameux président Schreber, là on l'avait étudié de très très près, ça nous avait tenu très longtemps. Et bien, si vous prenez ce délire, c'est quoi? Vous voyez quoi? C'est tout simple, vous voyez un type qui ne cesse de, alors, délirer quoi? L'Alsace et la Lorraine. Il est une jeune Alsacienne, Schreber est allemand, hein, il est une jeune Alsacienne qui défend l'Alsace et la Lorraine contre l'armée française. Il y a tout un délire des races. Le racisme du président Schreber est effréné, son antisémitisme est effréné, hein, toutes sortes d'autres choses en France. C'est vrai que Schreber a un père. Le père, c'est un homme très très connu en Allemagne. Et c'est un homme très connu pour avoir inventé de véritables petites machines à torture pour le bon maintien des enfants. Par exemple, des machines masturbatoires, hein, où l'enfant couche avec les mains liées, tout ça. Quand il délire, le président Schreber, il délire aussi tout un système d'éducation. Et enfin, le rapport avec le soleil. Voilà, il délire le soleil, il délire l'Alsace et la Lorraine, il délire la langue primitive du dieu primitif, il s'invente une langue qui renvoie à des formes de bas d'allemand. Là, il se trouve que précisément, Schreber, il a écrit son délire. Alors, c'est un bon cas. Vous prenez le texte de Freud à côté, je vous assure, enfin, si vous avez souvenir de ce texte, à aucune page, il n'est question de rien de tout ça. Il est question du père de Schreber, en tant que père, et de uniquement, tout le temps, tout le temps. Le père de Schreber, et le soleil, c'est le père, et le dieu, c'est le père, etc., etc.
Gilles Deleuze en 1980, pardon pour la qualité de l'enregistrement, qui est un enregistrement donc de l'époque, fait sur magnétophone. Et donc Gilles Deleuze qui aurait pu tout aussi bien ici évoquer le cas du corps sans organes.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le discours de Deleuze s'inscrit dans un discours plus général, qui d'ailleurs a commencé à la fin des années 50, avec Niederlands, avec Schatzmann, avec un certain nombre de gens, qui mettent l'accent, enfin, qui rappellent à juste titre que tout ça est lié à un système sociopolitique. Simplement, je crois que Gilles Deleuze, qui...
Il met l'accent sur le père aussi.
Voilà, dont l'intelligence n'est pas démontrée, on aurait pu quand même lui conseiller de regarder de plus près la clinique analytique. Parce que la clinique analytique nous dit à quel point ce rapport au père est essentiel. Il est très important en psychanalyse de ne pas produire une lecture idéologique, mais essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on tient tellement à cette notion de père. C'est pas parce qu'on reste attaché au préjugé du père. Au contraire, chez Schreber, il y a indéniablement une impasse sociopolitique. Il y a une protestation contre le père réel, mais il y a une impasse du côté du père symbolique. C'est pour ça que Lacan là, a joué un rôle très important pour rappeler... Alors là, peut-être qu'on peut évoquer la différence entre Freud et Lacan qui est assez nette. Là où Freud nous dit que c'est l'homosexualité et l'impossibilité d'une motion homosexuelle impossible à avaler pour Schreber, qui organise cette espèce de transe fondamentale dont va naître le délire... Lacan, lui, met l'accent sur le père, mais pas le père réel, pas le papa, le père symbolique.
Voilà, le nom du père.
Le nom du père. Le nom du père en tant que... D'ailleurs, le nom du père n'a pas été introduit au tout début par Lacan du côté exclusivement de la psychose. Mais c'est dans la psychose que se démontre la forclusion du nom du père.
Voilà, c'est le mot forclusion aussi, voilà, qui est important.
C'est un trouble de la filiation. Essayons de dire de façon simple, qu'est-ce que c'est que ce nom du père? Le nom du père, ça fait un peu théologique.
Forclusion, juste par parenthèse, oui. C'est un synonyme de rejet.
Voilà, chez Freud, il y a Verwerfung qui veut dire rejet. Lacan muscle beaucoup, si je peux dire, sa traduction, en disant que c'est une forclusion. Vous voyez, au sens où l'administration est un bon exemple. Quand un délai est dépassé, c'est forclos. Vous pouvez faire des pieds et des mains, c'est forclos. Il y a quelque chose qui tombe qui fait que tout acte passé le délai est nul et non avenu. Alors, transférons ça sur le plan psychique. Ça veut dire que un sujet a besoin, pour constituer son identité psychosexuelle, d'être relié à sa filiation. C'est pas simplement le géniteur, le père, c'est le nom du père, c'est-à-dire sa dimension symbolique. Par exemple, quand un homme, à son tour, va devenir père, il a besoin que le nom du père soit en place. Un exemple simple, peut-être trop simple, un sujet qui jusqu'à présent est normal, apprend qu'il va être père. Il commence à déclencher un délire. Il commence à penser que des voix parlent dans la radio et s'adressent à lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a essayé de consulter le nom du père pour essayer de voir si lui-même pouvait être père, et à la place, il a trouvé un trou. Voilà. Voilà ce que c'est que la forclusion. Alors, c'est résumé de façon un peu brutale, mais c'est ça la forclusion.
Voilà. Alors, puisqu'on parle du père Paul-Laurent Hassoun, il faut rappeler ce que nous dit justement Gilles Deleuze, c'est que donc ce père était un personnage extrêmement autoritaire et donc effectivement l'inventeur d'une méthode pédagogique extrêmement sévère.
C'est exact et c'est très important de l'avoir noté, mais voilà, imaginez le père le plus sévère qui soit, il ne produira jamais un psychotique, pour le dire de façon un peu sèche. Pour qu'il y ait psychose, il faut qu'en plus, il y ait eu féminisation par le père. Parce que dans l'Œdipe, il y a bien sûr le père et le grand obstacle face au désir de la mère, ça, on le sait par cœur. Mais on oublie de dire que chez Freud, il y a toute une relation très féminisée du fils à son propre père. Et tout l'effort du petit Œdipe, c'est justement de rester du côté de la masculinité en se défendant contre le père. Imaginez maintenant une féminisation envers le père. Et la crainte de se faire avoir, donc ce que Freud appelle une attitude féminine. Et à ce moment-là, le sujet va se
la
faire...
La séduction, par exemple, peut entrer dans,
donc,
dans l'éventail des ressources de cette
Il manque un maillon à l'explication de Deleuze et des autres, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de parler de l'orthopédie et du contrôle du corps, il faut bien voir que cette orthopédie a contribué, certes, à féminiser le corps du fils. Alors là, c'est effectivement une catastrophe, parce que comment voulez-vous avoir une identité psychosexuelle dès lors que le corps est en permanence contrôlé par le père. D'ailleurs, j'ajouterais que le père Schreber, Moritz Schreber, avait fait lui-même une dépression. Donc ce n'était pas simplement quelqu'un de très costaud, c'était quelqu'un qui lui-même était assez déprimé. Et c'est ce qui explique peut-être un dernier point important à noter, que les femmes jouent un rôle très important. Par exemple, la mère de Schreber ou sa femme, Pauline et Sabine, hein, c'était quand même des femmes qui valaient bien père. Oui. Et quand dans les familles il y a comme ça cette espèce de brouillage symbolique, ça produit des effets. Par exemple, on a remarqué que Schreber avait décompensé pour la première fois au moment où sa femme était en voyage. Et indéniablement, c'est elle l'homme de la famille. Voilà. Et encore un dernier point, désolé, c'est un peu complexe, mais il faut voir tous les faits, c'est le désir d'enfant qu'avait Schreber. Schreber oui. voulait, dans son couple, avoir des enfants. Il n'a pas réussi à avoir d'enfants pour des raisons de stérilité ou autre. Hein. Et il a d'ailleurs eu une fille adoptive. Et il est indéniable que cette envie de devenir la femme de Dieu est en rapport avec cette féminisation et c'est cette espèce de catastrophe qui implique qu'il a perdu le monde, etc. C'est pour ça que je dis attention, quand on relit les cas Schreber, qui mérite d'être lu avec toutes les grilles, n'oublions pas de nous régler sur la clinique parce qu'elle nous aide à comprendre le sujet réel plutôt que d'en faire à l'enjeu de combat.
Voilà. Logique. Voilà. Alors ce qu'on a reproché à Freud, Paul-Laurent Hassoun, dans ce texte et dans cette entreprise, c'est d'avoir effectivement négligé, justement, curieusement, le rôle du père réel.
Alors, c'est pas faux dans la présentation, puisqu'il ne nous dit jamais que le père de Schreber est méchant ou qu'il est la cause de tout ça. Non. Certains disent qu'il protège le père. Peut-être, on peut toujours dire ça, mais rappelons quand même l'essentiel. Ce qui nous intéresse, c'est le sujet, c'est-à-dire c'est Daniel Paul Schreber. Hein. C'est lui qui nous intéresse, c'est son impasse. Hein. Donc on peut penser que Freud aurait pu mettre plus en avant les personnages réels qui ont été les partenaires du drame de Schreber. Mais ce qui l'intéresse, c'est son impasse subjective. Vous remarquerez par exemple, à force de mettre trop le rapport sur le père méchant qui produit une psychose, on va finalement penser que le sujet est simplement un sujet qui réagit à une mauvaise méthode d'éducation. Alors qu'il faut toujours prendre le sujet du désir hein, et l'impasse du sujet du côté du désir. Ceci dit, c'est un bon document sur les sévices corporels au moyen d'une éducation. C'est-à-dire, le super père, super éducateur, ça fait beaucoup plus de dégâts qu'un père qui fait juste acte de présence et qui passe pas son temps à contrôler le corps de son fils. Alors ça, c'est exact. Mais voyez, il ne faut pas faire de Schreber un héros, une victime des méthodes d'éducation. Il est plus intéressant de voir comment ce sujet-là a configuré son impasse subjective à partir d'une situation, c'est vrai, impossible qui lui a été faite. C'est pour ça que c'est en même temps un document social.
Alors dans la discussion justement critique sur ce texte, il y a notamment tout le courant des psychanalystes anglo-saxons autour de la figure de Melanie Klein.
Oui, bien sûr.
On n'a pas beaucoup évoqué Mélanie Klein au cours de ces cinq, mais c'est vrai qu'elle est, notamment pour la psychanalyse du petit Hans, elle est importante dans le concert de lectures critiques, disons, qui ont suivi ce texte dans l'histoire de la psychanalyse.
Oui, non, parce que paradoxalement, Mélanie Klein, en mettant l'accent sur les objets partiels, sur le rapport à la mère, fait passer le père à l'arrière-plan.
Voilà.
Le père chez Mélanie Klein apparaît sous la forme de ce fantasme archaïque extrêmement violent des parents combinés, hein, c'est-à-dire au fond de cette image fantasmatique qu'a l'enfant, de cette imbrication du père directement dans la mère. C'est un reproche que Lacan a fait, à tort ou à raison, à Mélanie Klein, qu'il appelle la géniale tripière, vous savez. C'est une manière de dire qu'elle a compris les tripes, c'est-à-dire tout ce qui est dans l'objet, tout ce qui est ce rapport à la mère, mais qu'elle n'a pas pris en compte suffisamment ces dimensions du père, et notamment du père symbolique.
Oui.
Alors, il n'empêche que ce rapport extrêmement archaïque qu'on trouve dans la psychose, de retour à des morceaux de corps détachés, etc., hein, c'est-à-dire toute cette hypochondrie que j'ai évoquée, c'est très important. Mélanie Klein a aidé Lacan à théoriser notamment son stade du miroir, sa théorie du corps éclaté, parce que le corps du psychotique est en quelque sorte décomposé, putréfié, mais
d'ailleurs, c'est curieux, vous parlez de putréfier, c'est un terme qu'emploie Schreber justement pour accuser son psychiatre Flexic de l'avoir abandonné à la putréfaction.
Voilà, parce que c'est ça la grande ambivalence, au fond, c'est à la fois cet envahissement par l'autre, par l'homme, le raisonnement de Schreber, c'est moi, un homme, que je puisse aimer un autre homme, c'est pas possible. Et en même temps, le fait que le délire prend acte de cette passion
secrète. Nous sommes obligés de couper là, Paul Laurent Hassoun. Merci. Je rappelle que vous êtes psychanalyste et l'auteur des leçons psychanalytiques sur masculin et féminin, ainsi que des leçons psychanalytiques sur le transfert, les deux ouvrages aux éditions Economica Anthropos. C'était le quatrième volet de cette série consacrée aux cinq psychanalystes de Freud. Nous verrons avec Roland Gori demain le cas de l'homme au loup.